Le micro a doublement le caractère d'une écriture. Il a le caractère d'une écriture littéraire et il est aussi celui qui écrit l'histoire, pour prendre le titre d'une émission.
Pierre Schaeffer, la radio des lendemains.
La radio est la chose la plus extérieure du monde et ça pourrait être la plus intérieure, car ce qu'on dit à un micro et dans l'intimité d'une chambre, ça peut être quelque chose d'extrêmement émouvant, n'est-ce pas ? Et cette radio-là n'existe pas, on n'en a jamais fait usage.
Au début de 1944, c'est un jeune homme de 34 ans, on vient de l'entendre. Il dirige le studio d'essai de Radio Vichy, mais engagé dans la résistance, il prépare déjà les émissions qui, après la libération, feront la soudure avec le nouveau monde. Ainsi, en février, s'en va-t-il armé d'un lot de disques qu'il a prélevé sur son stock jusqu'au château de Brangue pour interroger Paul Claudel. C'est un extrait de ce dialogue qu'on vous a passé. Le poète septuagénaire est très préoccupé par son nouveau dentier qui l'incommode. Et il demande « Comment vais-je faire pour lire mes textes ?» Et Schaeffer lui explique que si l'écriture est importante au micro, on n'est pas pour autant au théâtre. Tout au contraire, le ton de la radio est confidentiel et la matérialité de la voix s'y traite autrement. Schaeffer, ce sera toujours cela. L'urgence, préparer les programmes de demain. La réflexion, penser les arts mécaniques en corrélation avec la culture la plus ancienne, mais dans l'ère électronique qui s'ouvre. Et aussi l'enseignement, ce qu'il essaye de faire comprendre au vieux Claudel, il le partage pareillement avec ses compagnons, il ne conçoit le travail qu'en équipe, puis avec les étudiants africains qu'il forme dans les années 1950, car il a préparé les indépendances comme la libération. Schaeffer n'a dirigé la radio que 2 semaines, en août-septembre 1944, mais pour nous, c'est l'homme source.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Karine Lebaille, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous avez animé un livre collectif sur Pierre Schaeffer qui s'intitule, très joli titre, « Les constructions impatientes » aux éditions du CNRS. Alors vous êtes au CNRS, « Toute ma vie, dit Schaeffer, j'ai cherché des chercheurs ». Bah, vous lui auriez plu, parce que chercheuse et femme de radio.
Oui, en tout cas, chercheur pour Schaeffer, c'était plus l'idée du chercheur dans le sens de l'expérimentateur, celui qui tente, celui qui rate et celui qui produit. Vous parliez de l'urgence de produire et cette dimension de la recherche, elle est celle-là avant tout, je pense, chez Schaeffer.
L'association de la recherche et de la production radiophonique, vous allez lui donner cette année à France Musique, où vous œuvrez depuis très longtemps. Longtemps, c'était avec les Greniers de la mémoire, une nouvelle dimension qu'il aurait écouté avec curiosité. C'était très important pour lui, la curiosité. On va faire comme France Musique, commençons par un prélude. Le jeune homme a été, bon, polytechnicien, promotion 1929, bon, mais c'était un auteur et un acteur.
Oui, parce que Schaeffer est avant tout un homme animé dans sa toute jeunesse. Hein. Il est né dans un milieu très catholique. Et il est animé d'une foi profonde. Et même s'il rentre à Polytechnique assez vite, parce que les parents ont envie, qui sont eux-mêmes musiciens, vont le détourner de sa vocation de musicien et lui préférer un avenir un peu plus sûr. Et à Polytechnique, c'est un homme qui s'ennuie et qui va trouver, en fait, dans le scoutisme, dans les mouvements catholiques de jeunesse, cette nouvelle vie, la vraie vie, comme il dit. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il va rentrer en écriture avec un premier livre d'un ami scout, justement, décédé, et qu'il va écrire des grandes scènes radiophoniques, des grandes scènes théâtrales. C'est drôle mon lapsus parce que ce sont déjà des scènes qui pourront ensuite évidemment avoir leur traduction en radio.
Alors la scène et la radio, quand il entre à la radio avant la guerre, il s'occupe notamment des retransmissions des opéras.
Ouais.
Alors c'est pas facile leur transmission d'ailleurs.
Eh ben non, parce qu'à l'époque en plus il fallait tirer des câbles très longs pour rentrer au Palais Garnier. Il bénéficie de l'expertise de techniciens très chevronnés qu'il va retrouver d'ailleurs pendant la résistance. Donc toujours cette idée de la filiation de ces hommes qu'on rencontre, avec qui on noue des relations très fortes et avec lesquels on va pouvoir poursuivre et continuer l'aventure. Et effectivement, c'est déjà l'idée de restituer un espace scénique, un espace sonore. Et toute sa vie va tourner, voilà, toute sa vie va tourner autour comment faire scène à la radio. Moi qui ai fait scène sur les parvis des églises dans les années 30, hein, ou dans des grands messes scouts dans les forêts, comment restituer cette scène et redonner cette dimension du décor, en fait, et des plans.
Vous parliez de la résistance. Ça a été ce qu'on appelle maintenant, chez les historiens, un vichisto. résistant, qui a travaillé dans une certaine confiance avec certains milieux de Vichy pendant un bon moment.
Disons que cette catégorie vichisto-résistance est aujourd'hui parfois un petit peu critiquée parce qu'elle a tendance à justement un peu trop figer cette idée de la bascule où on passerait de Vichy, l'engagement auprès du premier Vichy, comme on dit, de la Révolution nationale vers la résistance. Alors que Schaeffer, lui, d'une certaine façon, à la différence de vichisto-résistants patentés, on en connaît certains. On va pas citer les noms. Mais chez Schaeffer, c'est ce que disait son ami l'écrivain Roger Lénart, il disait que c'était jamais à travers une idéologie que se construisait son action. Schaeffer est un pragmatique. C'est un homme qui s'engage dans la Révolution nationale parce qu'il va y trouver tous ses copains scouts, parce qu'il parle d'ailleurs du premier Vichy comme un vrai camp scout, parce que le secrétariat d'État à la jeunesse est effectivement dirigée par des anciens copains des équipes sociales de Robert Garrick. Donc c'est quand même ce scoutisme, cette pensée de régénération, de spiritualité, qui va l'entraîner dans cette aventure de Radio Jeunesse, donc qui est une émission quotidienne qui n'est pas piquée des hannetons.
Il y a quand même aussi Vichy,
hyper pétainiste.
Et puis après, dans Jeune France, qui est
peut-être le moment le plus troublant.
Mais il y a une association qui est quand même liquidée par le régime de Vichy au bout d'un moment.
Elle est liquidée, mais elle est liquidée parce qu'il y a Pierre Mounier qui dirige la revue Esprit, qui est un esprit justement qui va déranger assez vite les hommes, les nouveaux hommes arrivant dans le Vichy qui se tend en 41, c'est la bascule de 41. Schaeffer va essayer de défendre quand même son association culturelle et il se fait virer effectivement, mais c'est encore une fois, il pensait que à Jeune France comme à Radio Jeunesse, il allait pouvoir animer, construire et construire des projets culturels.
Alors une équipe, il la trouve pour un nouveau moment à partir de 1943 au studio d'essai où on va, je parlais du prélèvement des disques sur les stocks, préparer les émissions d'après la Libération, mais aussi les journées de la Libération. C'est lui qui est responsable de Fête de la Radio, qui a été abandonnée par les hommes de Vichy. La radio était à Paris, son siège en 1944. Il assume l'antenne avec ses compagnons, il continue d'annoncer les disques, très étiquette traditionnelle. Vous allez entendre un disque de... vous avez entendu un disque de... Alors, ce que vous allez entendre, je ne sais pas si c'est un direct, une relation en direct, une reconstitution. Écoutez.
Ici, radiodiffusion de la nation française.
Mardi 22 août, malgré les fusillades, malgré les Allemands, 10 journaux sortent des imprimeries. Les Parisiens s'arrachent ces feuilles qui leur apportent des informations enfin libres. Le combat s'étend de quartier en quartier. Mardi 16h, rue Froidevaux, au quartier général des transmissions FFI, en présence du colonel Kléber, chef adjoint de l'état-major national.
Vous allez diffuser ça. Permettez-moi, colonel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un appel à l'insurrection générale. Vous savez que jusqu'à présent, il nous a été interdit d'orchestrer l'insurrection à la radio. Il faudrait une confirmation du secrétaire général de l'information.
Quelques instants plus tard, l'ordre confirmé par Jean Guinbert dès 21h, la radio de la nation française change de ton.
La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. Français, debout, tout au combat.
Allô?
Allô?
Le studio d'essai?
Oui?
Est-ce que je pourrais parler à M. Schaeffer?
C'est moi.
Ah, bonjour, cher ami du temps.
Qu'est-ce qu'il a?
C'est le Var.
Ah bon, bonsoir.
Très gentil, votre appel aux armes, je viens de l'entendre.
Oui.
Mais les combattants sont depuis longtemps dans la rue. Faut-il que nous descendions dans le noir, comme ça, avec nos couteaux de cuisine, les 11h?
Non, il s'agit d'abord de confirmer que l'insurrection est bien appuyée et par le quartier général FFI et par le gouvernement provisoire pour dissiper le malentendu de la trêve.
Bon.
Et puis ensuite, il s'agit de donner aux Parisiens des informations, de leur faire comprendre dans quel esprit se passe l'insurrection. La radio aussi combat.
Eh bien, je vous remercie.
Bonsoir.
Alors, au revoir, cher ami.
On entendait donc un extrait de la Libération, du journal de la Libération de Paris, et on voit là tout le génie de Schaeffer qui à la fois reprend des documents originaux, le premier générique qu'on entend alors radiodiffusion de la nation française, c'est Pierre Crenez qui parle, et effectivement ensuite de la reconstitution sur des sons originaux, parce que les bombardements on sait qu'il les a, on peut les entendre à l'INA, mais il est toujours extrêmement difficile de distinguer chez Schaeffer pas le vrai du faux, mais le vrai du reconstruit vrai, et ça
donc, là, c'est Paul Éluard qui accepte de reconstituer.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il y a eu le projet chez Schaeffer, comme il s'est fait assez vite renvoyer de la radio. Il est parti aux États-Unis et il a voulu aussi montrer aux Américains, et même dans le studio d'essai, dans les premiers jours de la libération, il faut prouver aux Américains que la radio s'est libérée elle-même. Et cette fiction de la radio en armes qui va porter sa voix dans une France libérée, elle est très importante aussi face aux Américains. C'est un enjeu politique. Il faut bien montrer à un moment donné que la France se libère. C'est ce que va dire De Gaulle sur le parvis de Notre-Dame ou à l'Hôtel de Ville. Et c'est ce que va dire Schaeffer par la radio.
Mais il y a des reportages dans ces journées de la libération
qui
sont faits comment ?
Qui sont faits, ils partent en camion, ils s'entassent dans des camions avec des câbles. Hein, et on voit des photos d'ailleurs de Pierre Crenès interviewant Bidault, interviewant... Ben, c'est comme ça qu'on capte le très beau discours de Gaulle à l'Hôtel de Ville.
Mais ce ne sont pas des directs alors. Donc, c'est sur disque ?
Là, c'est sur disque, ça enregistre les Philips, c'est sur disque ou sur machine à fil qui s'appelait les Philips Miller, enfin, oui. Pas entrer dans les détails.
Et il y a des directs.
Techniques. Et il y a des directs quand ils sont dans le studio, uniquement. Quand ils sont dans le studio, et là, on les entend, ça tire de partout, ouvrez les portes, on entend les cloches. Et quand on entend les cloches sonner, quand il y a cet appel aux curés,
des curés
parisiens,
Paris,
voilà, oui. Pour annoncer enfin Paris se libère, on va avoir ces vrais sons. Donc c'est une espèce de montage savant entre le vrai et le vrai reconstitué.
L'écriture radiophonique. Les années d'après la libération, et d'abord les premières semaines, permettent de passer un certain nombre des émissions qui avaient été mises en stock. Il y avait au studio d'essai, ce que vous dites, des émissions de minuit qui étaient le pendant des éditions de minuit sur papier. Et parmi ces émissions, un feuilleton d'expérimentation qui marque la recherche d'une nouvelle esthétique radiophonique qui s'appelle La coquille à planète et où l'un des comédiens participants, c'est Louis Salou. Les vedettes de l'époque disaient il fallait qu'on travaille pour Radio Vichy ou pour Radio Paris. On pouvait aussi travailler pour les clandestins du studio d'essai de Radio Vichy.
De Dieu chercher la grâce. Quelle sera-t-elle ? Une chanson des rues, un cheval qui hannit, un lys trop mûr, un filet de pêcheur, un déclic de machine, un sucre évanoui dans un verre d'eau. Les sacrements de l'âme, quoi. Mais nul n'est-il pas vrai qu'ils prennent vraiment conscience de cette palpitation essentielle. Nul qui sache convenablement approcher de son oreille impénitente la coquille à planète. J'ai déjà trappe-nigaud, quoi. Mais encore vous faudrait-il persévérer. Eh bien, est-ce qu'auriez-vous trouvé illumination et joie sinon dans les 22 ? Et comment faire ? Le peu qu'on vous en dit vous brouille le reste qu'on vous tait. Certes, l'évidence... Mais déjà, j'ai trop parlé. Seul le silence...
Alors là, chère Karine Lebaille, je laisse un léger silence, mais je pourrais mettre du bruit, de la respiration, et pas seulement des mots, parce que dans la chambre des merveilles, qu'est la coquille, pour qui sait entendre, il y a tout ça.
Oui, il y a cette idée toujours du pouvoir séparateur de l'oreille et que la puissance du micro est justement de cette capacité à créer ce rapport au temps complètement différencié et en plus de l'expérimentation sur les sons, les bruitages, les chambres d'écho. Il y a dans cette expérimentation qui est un peu le grand œuvre radiophonique de Schaeffer, hein, c'était une énorme série, un opéra radiophonique, un des premiers opéras radiophoniques.
8 épisodes.
Ouais, 8 épisodes, composé par Claude Arieux, qui est sa collaboratrice d'origine juive, cachée par Schaeffer dans son appartement à Bellevue à la fin de la guerre, parce qu'elle a été, exclue de la radio de Vichy en 1941. Et c'est vrai que la beauté de cet enregistrement, c'est qu'il y a à la fois le côté aussi très autobiographique, puisque Léonard, hein, c'est un peu Schaeffer. C'est le même signe astrologique que lui, le lion, Léonard. Il va revisiter un peu toutes ces possibilités, toutes les gammes qu'offre la radiophonie. Et ces épisodes vont être diffusés, certains des épisodes vont être diffusés dans la radio de Vichy. Et c'est ça qui est intéressant à noter, c'est que dans cette radio hyper extrémisée de la fin de la guerre, vraiment lancée dans la collaboration, les émissions antisémites, il n'y a plus beaucoup de différence avec avec Radio Paris, on va retrouver une enclave de résistance, une enclave à la fois de créativité avec des œuvres très originales qui tranchent avec l'esthétique de Vichy, et puis, comme vous disiez juste avant l'extrait, cette sociabilité résistante qu'il y a au sein de ces émissions enregistrées clandestinement la nuit par les poètes des éditions de Minuit.
La marge devient la page 43, 44. Il est viré très vite, il va être viré, on ne va pas faire le compte, 7-8 fois ?
Oui, à peu près, voilà.
Mais chaque fois qu'on le vire, il va se lancer dans une nouvelle enclave qui va devenir un royaume. Par exemple, 1948, voici qu'il propose dans ce qui est devenu le Club d'essai, parce qu'on a même supprimé le nom de Studio d'essai en même temps qu'on lui supprimait sa suprématie. Voilà, qui se lance dans une manière musicale qui va devenir un vrai domaine musical, un vrai royaume musical.
Présentation du concert de bruit de Pierre Schaeffer, le dimanche 20 juin 1948, à 21h. Et le speaker était Jean Toscane, au Club d'essai. Le Club d'essai de la radiodiffusion française présente un concert de bruit conçu et réalisé par Pierre Schaeffer, assisté de Claude Dupont, avec la collaboration technique de Pierre Jacobi, Pierre-François et Raymond Verchère.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec une touche de Jacques Sigal, un extrait des Tontons Flingueurs, si vous le permettez, Karine Le Bail. Mais Jacques Sigal lui-même, il se réclame de Pierre Schaeffer, mais via peut-être Pierre Arnaud de Chassy-Poulet,
oui,
qui était aussi un compagnon de Schaeffer. Et moi, je voulais saluer le nom de Claude Dupont, qu'on veut bien entendre, assistant en 48 de Schaeffer, et Laurence Bloch pourrait le dire aussi bien que moi, ou Laura Adler, on a été formés par Claude Dupont, mais tous de la descendance
c'est
de
Schaeffer. C'est fou, parce que c'est cette longue chaîne, ouais.
Mais c'est vous qui êtes à France Musique, en revanche, Karine Le Bail, et qui vous pouvez nous parler plus...
De la musique dite concrète.
Spécifiquement de la musique dite concrète.
Dite concrète. C'est lui qui invente le terme de concret. Il va renier, hein, c'est comme il les appelle, ces balbutiements du début. Mais ce qui l'amuse, lui, c'est encore cette idée assez scientifique du sillon fermé. C'est l'idée que le 78 tours tourne à 78 tours par minute, et en fermant le sillon, on capte un son et on l'isole. Et c'est encore cette idée de la séparation, le pouvoir séparateur de l'oreille. Donc pour lui, c'est pas du tout de la composition en tant que telle, c'est pas de la musique, c'est cette dimension d'expérience, de l'étude du phénomène. Et c'est là qu'il y a une énorme malentendu entre ce qu'on a pensé comme de la création musicale, qui pour Schaeffer était un travail d'expérimentation sonore, d'où le clivage et les tensions qui vont apparaître assez vite entre lui et Pierre-Henri. Quand Pierre-Henri va arriver en 50, Pierre-Henri, lui, croit à la musique électroacoustique et est un créateur, est un musicien, et ils vont se séparer, et effectivement Pierre Schaeffer va s'éloigner et vivre de nouvelles aventures ailleurs pour un temps.
Dans la musique concrète, il y a une part de la voix. Schaeffer disait, tiens, je trouve un disque là qui reste dans un coin, c'est marqué d'une croix, c'est Sacha Guitry, mais cet enregistrement a été interrompu parce que la script toussait, mais je peux utiliser le disque là.
Oui. Ben c'est le côté joueur, quoi. C'est tellement merveilleux de pouvoir disposer de tous les sons de la planète et de pouvoir les isoler et faire de ces sons séparés œuvre avec son rythme, avec du théâtre, parce que comme toujours, il y a toujours...
C'est un DJ, quoi, Pierre Schaeffer.
Je pense, et en plus, il avait des techniciens Très sincèrement, des DJ d'aujourd'hui les auraient vus travailler à l'époque à caler les disques et à faire tourner les bonnes vitesses hein, pour faire des enchaînements. C'est des virtuoses à l'époque. Hein.
Alors revenons, puisque l'oreille a un pouvoir séparateur, sur le thème des modulations, de la dynamique, de la matérialité de la voix, avec un exemple qu'on puise dans ce grand ensemble qui s'appelle 10 ans d'essais radiophonique qui mêle des créations du studio et du club d'essai, Phonurgia Nova. On a fait 5 CD qui sont encore en vente, non? On les trouve plus à la maison de la radio. Ça n'existe plus que numérisé. On lance un appel à tous nos auditeurs.
Oui, je suis plus sûr,
si les CD matériels de Phonurgia Nova sont encore disponibles.
Ils sont quand même régulièrement réédités.
Dites-le nous. Alors, un extrait parmi beaucoup d'autres de ces 10 ans d'essai radiophonique. Ça s'intitule Monsieur Jourdain chez les speakers. Tous les métiers ont de l'importance, même quand on les regarde avec un œil peut-être ironique.
À tout seigneur, tout honneur, comme il convient, c'est Jean Toscane qui donne le ton.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la radiodiffusion française vous invite à écouter ce soir, donné en première audition, sous la direction du compositeur.
Autre version.
Mesdames et messieurs, vous allez entendre un concert. Les cordes ont déjà pris place. Entre les trompettes, qui sont suivies des cuivres, brillants et reluisants.
Comme on le voit, la radio, elle aussi, a son annonceur annoncé. Et que cet hommage rendu à leur doyen assure les speakers, ces obscurs, ces sans-grades, ces indéfectibles serviteurs de la radio, de notre gratitude pour tous ces...
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation d'un centre de haute pression.
Bulletin météorologique, tous ces...
Au quatrième top, il sera exact...
Signaux horaires... Tous ces bulletins d'information.
Ici Paris, Radiodiffusion française, voici le journal parlé, édition complète du soir. Speaker.
Ici signent d'habitude les speakers de leur propre voix. Qui mieux qu'eux pourrait donner le ton, susceptible, comme l'on sait, dans tous les cas, d'indisposer le public, tout aussi susceptible qu'eux, et qui comprendra jamais les difficultés de leur métier.
La tonalité de la voix, Karine Le Bail.
Toscane était le speaker qui était dans le même studio que le maréchal Pétain quand il annonce l'armistice le 17 juin. C'est la grande figure de l'entre-deux-guerres et de l'immédiate après-guerre qui présente tous les grands concerts au Théâtre des Champs-Élysées. Donc effectivement, on a cette voix posée. Mais ce qui est intéressant dans l'archive, effectivement, c'est ce que Schaeffer en fait. D'abord, c'est cette capacité à embrasser tous les corps de métier. Et puis, ce qu'il a toujours voulu faire au studio d'essai et ce qu'il va continuer à faire au service de la recherche et également dans les radios d'outre-mer, parce qu'on va peut-être l'évoquer tout à l'heure, c'est cette envie de renouveler les genres et les formats radiophoniques et de donner à penser à tous ces corps de métier la façon dont ils pensent leur propre métier, dont ils peuvent faire évoluer aussi leur propre métier. Et cette dimension d'expérimentation, elle était géniale parce que c'était on sort du flux, on sort de la productivité de l'antenne, on crée un espace à côté. On expérimente, on a le droit de se tromper, mais c'est là qu'on peut renouveler les choses. C'est certainement pas dans la contrainte du flux quotidien d'une production radiophonique. Et ça, je pense que c'est important de le noter.
Il aimait bien les lieux où on avait la possibilité de se réunir régulièrement entre soi, sans trop de hiérarchie, de s'isoler du temps, de se préparer collectivement.
Oui.
Prélude, chorale, fugue. Maintenant, si vous le voulez bien, il faut qu'on évoque cet avant-dernier moment où il est chef de service de la radiodiffusion d'outre-mer. Il a été vidé déjà 6 ou 7 fois. On le nomme à ce poste sans importance où il va créer une société d'économie mixte pour acquérir le plus de sons possible pour nourrir les futures radios de l'indépendance africaine. Et puis un studio-école à la Muette, dans un endroit isolé, justement, où on est recruté par concours. Voilà comment il présente le concours en 1955.
Le directeur de la radiodiffusion de la France d'Outre-mer, rattaché au ministère de la France d'Outre-mer, Pierre Schaeffer, est venu nous voir. Il est venu nous voir pour nous parler du concours d'entrée au stage, plus exactement au studio-école de la radiodiffusion de la France d'Outre-mer.
Nous cherchons à la fois en métropole et dans les territoires d'outre-mer des candidats présentant des aptitudes à la radiodiffusion, soit sur le plan technique, soit sur le plan des programmes.
Y a-t-il des conditions d'âge ou d'études préalables ?
Les conditions sont assez larges. Nous ne cherchons pas naturellement de manœuvres non spécialisées. Nous cherchons des gens que leur formation antérieure prédispose à la radio, mais nous sommes assez larges quant aux conditions d'âge et quant aux diplômes. Quand nous disons niveau de la licence ou niveau du baccalauréat, ces mots n'ont pas forcément le même sens pour des métropolitains ou pour des Africains. Les instituteurs africains connaissant bien le pays et ayant une certaine maturité nous conviennent. Les techniciens africains ou métropolitains nous conviennent aussi. Ils n'ont pas besoin d'avoir un diplôme scolaire, mais il faut qu'ils connaissent quelque chose à la radioélectricité.
Et puis, il faut surtout de la curiosité, dit-il, plus que de l'érudition, de l'honnêteté, de la capacité de sympathie. Ça, c'est ce qu'on a quand on commence à faire de la radio. Après, le reste, ça peut s'apprendre, l'histoire, la géographie, l'économie.
Et d'ailleurs, c'est ce qui froissait tous les responsables de la grande radio d'État à côté. Là encore, il s'était créé son enclave effectivement à La Muette, puis ensuite à Maison Lafitte. Mais c'est sûr qu'il demandait des qualités qui n'étaient pas celles habituelles, parce qu'il veut qu'un homme de programme, un homme de radio, puisse à la fois composer, présenter un journal parlé, animer une émission publique de variété. Il doit avoir aussi des connaissances techniques. Forcément, ça crée un mini scandale dans le milieu de la radio, cette idée de la polyvalence des cadres africains.
Et il est viré en 1957. Je vais vous donner le secret d'une radio vivante. Soyez la voix de chacun. Soyez le lien des hommes avec les autres hommes. Faites parler chacun à chacun, de bouche à oreille. Mardi, chez nos amis de la Fabrique de l'Histoire sur France Culture, un documentaire va être consacré à l'Outre-mer, à la formation de Pierre Schaeffer. Un mot du dernier grand enjeu. Il avait été viré de la radio, le voilà qui arrive à l'ORTF, à la télé. Le service de la recherche, ça c'est à l'endroit étonnant aussi.
Ça c'est la plus grande aventure, puisqu'il y reste de 57 jusqu'en 74. Il n'aura jamais duré aussi longtemps, Schaeffer. Donc là, effectivement, il arrive à s'installer aussi parce que les productions qui commencent à permettre de se réaliser, que ce soit La Jetée de Chris Marker ou Les Shadok, évidemment, on va éviter de...
Ou Dim Dam Dom.
Ou Dim Dam Dom. Il a, et puis surtout, il réunit, tous sont, encore une fois, il refait groupe, encore une fois, il refait presque église, hein, toujours cette idée du groupe, suivez-moi, je suis l'homme que l'on suit, je suis l'homme auquel on doit adhérer, et l'idée de l'œuvre commune, ça il l'invente. C'est-à-dire que toutes les productions de musique électroacoustique de l'époque sont des œuvres composées à plusieurs mains. Donc il y a des photos des années 70 où ils sont dans des grands salons, sur des peaux de bêtes, ils écoutent ensemble et ils commentent ensemble les œuvres. Donc c'est un moment, je crois que c'est un moment de grande joie et de grand plaisir de l'action qu'ont représenté ces années-là. Ouais.
Photos qu'on retrouve dans votre livre... Collectif, bien sûr,
oui,
travail d'équipe.
Et dirigé avec Martin Kaltenecker, qui est un très fin connaisseur de la création radiophonique.
Aux éditions du CNRS, les constructions impatientes, parce que comme disaient les Shadok, quand c'est détruit, on recommence. Jacques Sigal, Dimitri Gronoff, Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Frédéric Martin, l'équipe de la Marche de l'Histoire.